pour voir comment l'aménagement dans les camps de réfugiés peut changer la donne. Pour en parler, Fatène Kikano, elle est doctorante spécialisée en politique d'accueil et de logement pour les réfugiés à l'Université de Montréal. Bonjour, Madame Kikano.
Bonjour, Marie. Comment allez-vous?
Ça va bien. D'abord, parlez-nous, parce que souvent, on voit à la télé ces images de gens qui sont réfugiés dans des camps. Souvent, ces camps deviennent énormes et c'est des camps aussi qui deviennent permanents. Qu'est-ce que ça pose comme problématique?
Tout d'abord, je dois vous remercier pour votre question qui est extrêmement pertinente et qui est au centre de mon étude, que actuellement les statistiques parlent de 68% de situations de réfugiés qui durent en moyenne 26 ans. Alors le problème, c'est que dans le cas des camps organisés, par exemple, qui sont construits et planifiés par le HCR, ces camps-là sont une solution d'urgence. Oui, ils sont aménagés dans une situation d'urgence quand il y a un flux de réfugiés dans une situation de guerre ou dans une situation, une autre situation, il y a des réfugiés climatiques, etc. Mais dans la plupart des cas, c'est des situations de guerre et ces habitations sont temporaires. Donc, c'est soit des conteneurs, soit des tentes, alors qu'ils durent pendant des décennies. Et les habitations ne sont pas conçues pour durer au-delà de quelques mois, voire un ou deux ans. Ça pose un grand problème, un problème de logistique, un problème climatique, un problème social pour les gens qui occupent ces espaces-là. En plus, ce sont des habitations qui ne sont pas du tout adaptées ni au climat du pays dans lequel ils sont installés, ni aux besoins socioculturels des gens qui les habitent. Je vous donne un petit exemple. Dans le camp Za'atari, en Jordanie, que j'ai eu la chance de visiter en 2015, il y a par exemple des salles de bain communautaires, alors que les femmes qui habitent ce camp-là, c'est des femmes musulmanes, voilées, pour lesquelles il serait très difficile de sortir de chez eux pour aller utiliser les toilettes, par exemple.
Que font-elles alors?
Eh bien, les gens se débrouillent, les gens trouvent des solutions. Dans le cas de Al-Za'atari, ils fabriquent d'une façon artisanale des toilettes à l'intérieur des maisons. Le problème, c'est que ces toilettes-là ne sont pas reliées aux égouts. Elles n'existent pas dans un camp qui accueille actuellement 80 000 personnes, donc il n'y a pas d'égout.
Oui, ça peut causer des problèmes de contamination.
Exactement, surtout la pluie, surtout l'hiver quand il pleut, pardon.
Il y a aussi un aspect de votre étude où vous allez vous pencher sur les changements sociaux que ça pose pour les pays qui accueillent ces réfugiés-là. On pense au Liban, où le Liban n'est pas un pays énorme comme le Canada, mais qui accueille beaucoup de réfugiés.
Oui, en effet, le Liban accueille approximativement, on parle entre 1,5 million et 2 millions de réfugiés syriens pour 4 millions d'habitants. Donc, le Liban est devenu le pays qui a le plus grand nombre de réfugiés par rapport à sa population. Et c'est un pays qui souffre de gouvernance faible et de problèmes politiques fréquents et de problèmes sécuritaires aussi. Et c'est un pays qui est basé sur un équilibre religieux. Donc, il y a un certain pourcentage des religions principales qui constituent les habitants de ce pays. Et quand il y a 1,5 million à 2 millions de réfugiés syriens sunnites, cela pose un grand problème. Cela constitue un déséquilibre par rapport à l'équilibre qui est déjà instauré dans le pays et une menace culturelle pour plusieurs communautés. De plus, c'est une population qui est très pauvre et actuellement, les pays donateurs ne s'intéressent plus malheureusement au Liban. Et pour l'année 2017, par exemple, c'est un pays qui reçoit 31% des besoins estimés par rapport au financement de cette crise.
Et ça, est-ce que c'est suffisant?
Pas du tout, pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a une certaine somme qui a été évaluée pour subvenir aux besoins des populations vulnérables syriennes et libanaises parce qu'il y a eu un grand appauvrissement de la population libanaise étant donné que les Syriens, parce que les aides humanitaires ne sont pas suffisantes, les Syriens travaillent Ils sont exploités parce qu'ils travaillent à des salaires bien moindres que ceux que, dont les Libanais ont besoin pour survivre. Et ils remplacent les Libanais dans les emplois, surtout les emplois qui ne demandent pas une expertise particulière. Et cela appauvrit 30% de la population libanaise. Donc, bien sûr que 31% des besoins évalués n'est absolument pas suffisant. Et les organismes humanitaires sont en train d'avoir beaucoup de mal à gérer la crise dans cette situation.
Parlez-nous de la dynamique de société à l'intérieur des camps que vous avez visités, je crois, au Liban et en Jordanie.
Le camp en Jordanie, c'est un camp organisé. Les camps organisés n'existent pas au Liban. Mais il y a une dynamique assez ressemblante entre les camps informels au Liban et le camp en Jordanie. Bien sûr, on ne peut pas comparer le nombre des habitants parce que les petits camps informels du Liban, c'est des camps qui contiennent 2000 à 3000 personnes au grand maximum, alors que celui de la Jordanie, c'est un camp de 80 000 personnes. Avec des organismes humanitaires sur place pour gérer le camp. Les camps informels au Liban, c'est des camps qui sont gérés par un personnage qu'on appelle communément Chawish. Donc c'est le gestionnaire du camp qui est habituellement syrien d'origine. En général, ça fait longtemps qu'il est au Liban et il est assez bien introduit auprès des autorités municipales. Il a ses papiers qui sont légaux. Donc, il a la liberté du mouvement, contrairement aux autres réfugiés. Et il y a une hiérarchie. Quand on regarde un camp informel, qu'on passe dans la rue et qu'on le voit, c'est un amoncellement de tentes qui sont très ressemblantes de l'extérieur. Mais à l'intérieur, il y a une hiérarchie très bien établie. Donc, il y a le Chawish et sa famille qui sont les plus nantis. De l'extérieur, on a l'impression que c'est des endroits précaires, que c'est des endroits où il y a le crime, la précarité, etc. Mais à l'intérieur, finalement, ce que j'ai découvert personnellement dans mes travaux de terrain, c'est que ce sont des endroits de vie, des femmes qui s'occupent très bien de leur intérieur, tel que la tradition syrienne l'oblige. C'est des endroits très propres, c'est des endroits bien maintenus. Et il y a les tentes des gens très pauvres, très démunis, et ceux des gens qui sont mieux nantis. Et il y a une différence visible entre les deux types de tentes. Par exemple, une tente qui a des répartitions intérieures, qui est couverte par du tissu, des décorations, alors que l'autre tente, par exemple, serait une tente avec un espace unique, très peu de meubles, pas d'électroménager, pas d'électricité, etc.
Vous parliez tantôt de camps qui sont organisés presque comme des mini-sociétés. Est-ce que ces camps peuvent devenir des incubateurs pour des pensées radicales?
Ça, c'est ma plus grande peur, Maryse. Surtout dans des contextes fragiles et vulnérables comme le Liban, et qui est laissé à son propre compte par la communauté internationale, malheureusement. Oui, la littérature a beaucoup parlé de l'influence de l'environnement de vie. Ce ne sont pas des lieux temporaires, c'est des lieux qui durent. La crise syrienne, par exemple, elle est à sa 7e année et il n'y a pas de solution visible parce que pour la communauté internationale et pour les organismes humanitaires, la Syrie n'est toujours pas un lieu sûr pour le retour des réfugiés. Donc c'est une situation qui risque de durer pendant des années. Et si les gens sont laissés dans une précarité, on n'a qu'à visiter les camps palestiniens pour comprendre comment des environnements peuvent vraiment avoir une mauvaise influence sur l'évolution des gens. Et ceci sans parler des naissances multiples qui se produisent dans ces endroits-là, des enfants qui grandissent sans aucune éducation et dans des milieux de vie vraiment qui ne sont pas du tout adaptés.
Donc des enfants qui sont peut-être plus susceptibles d'être influencés.
Tout à fait, tout à fait. Des enfants qui n'ont que ces endroits-là comme exemple ou comme référence, qui n'ont rien connu d'autre.
Fatène Kikano, je rappelle que vous êtes doctorante à l'Université de Montréal, spécialisée en politique d'accueil et de logement des réfugiés. Merci beaucoup.
Je vous remercie, Maryse. Merci pour m'avoir donné la chance de faire cette entrevue et de partager mes connaissances.